Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Fin de l'accord pour la paix et la réconciliation, c'est le thème qui sera abordé au cours de ce grand dialogue de ce soir. Le gouvernement de la transition a annoncé la fin de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger avec effet immédiat. C'était la semaine dernière. Le gouvernement justifie cette décision par l'inapplicabilité absolue de cet accord signé en 2015 à Bamako. Il dénonce en outre le changement de posture de certains groupes armés signataires devenus des acteurs terroristes et poursuivis par la justice malienne. Quel impact de cette rupture sur les équilibres nationaux et régionaux? Le dialogue intermalien annoncé est-il la voie vers la paix définitive au Mali? On en parle dans ce grand dialogue avec Oumar Mc Koné, membre du Front du refus de l'accord d'Alger, Dr Brahima Mamadou Koné, politologue, et Jean-François Marie Camara, enseignant-chercheur à l'Université des sciences politiques et juridiques de Bamako. À la présentation, je suis Mirana Kilomaïga. Invités, auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Docteur, pourtant, on va commencer avec Oumar Mc Koné, qui est membre du Front du refus de l'accord pour la paix et la réconciliation. Alors, dites-nous, est-ce que cette annonce des autorités maliennes de la fin de l'accord vous a surpris?
Oui, bonjour d'abord Monsieur Maïga et bonjour à vos auditeurs. Donc Oumar Mc Koné, je suis le président du bloc du redressement et de développement du Mali. Et par ailleurs, comme vous l'avez si bien dit, vous m'aviez invité en tant que membre du FRA, donc du Front pour le refus à la mise en application de l'accord d'Alger. Alors, la décision du gouvernement nous honore et nous la saluons. Nous la saluons car notre point de vue, notre vision depuis la signature de cet accord, nous pensions que ça allait vers la partition de l'État. Et cet accord, même si vous essayez d'appliquer bon nombre de ces articles, vous ne parveniez pas. Et la preuve est qu'à peu près 9 ans aujourd'hui, au jour pour le jour, cet accord, il est resté dans des impasses multiples. Alors, la décision du gouvernement nous réjouit d'autant plus que, dans la forme, le contenu de cet accord, nous l'avons dénoncé sur plusieurs aspects. Ça amène la discrimination, une discrimination qui n'est pas possible, qui n'est pas acceptable. Ça amène la séparation, ça amène des choses comme l'autonomie, la fédération ou voire l'indépendance d'une partie de notre territoire, ce que les Maliens n'ont jamais voulu. Donc pour diverses raisons, ce qui a fait déborder la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si j'ose dire, ces derniers temps, c'est la posture de l'Algérie. Et nous l'avons toujours su et dénoncé cette posture de l'Algérie, mais aussi de celle de la France, de la Suisse, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, et j'en passe. Donc cet accord nous a été imposé comme une camisole de force. Alors l'attitude récente de l'Algérie est vraiment inamicable et non acceptable.
Nous allons parler de l'attitude de l'Algérie plus tard. Docteur, il se réjouit de la fin de l'accord qui, pour lui, son objectif était la partition du pays. Est-ce que cette décision, pour vous, des autorités, est surprenante?
Non, la décision est prise par les autorités de la transition. Elle n'est pas surprenante. Mais je voudrais que vous me permettez de glisser un certain nombre de points avant de répondre à la question de fond qui est l'objet du débat. Et cet accord que nous dénoncions aujourd'hui ou que le gouvernement dénonce aujourd'hui, on peut considérer ça comme la fin de l'accord de paix. Mais ce que je voudrais dire pour élucider la lenteur de certains, c'est que vous savez, quand on signe l'accord de paix, le Mali était en position de faiblesse. Parce que les groupes armés qui ont affaibli les positions de l'armée malienne à l'époque avaient permis l'éruption et l'installation de groupes terroristes sur le territoire national du Mali. Donc nous avons signé l'accord parce que nous étions en ce mois en position de faiblesse. Mais ce qu'il faut comprendre d'un accord de paix, pour la paix et pour la réconciliation nationale, quand vous prenez l'histoire politique du monde, quand vous prenez l'histoire des relations internationales, l'objectif, un accord a deux objectifs. Le premier objectif, c'est obtenir le cessez-le-feu. Et le deuxième objectif, c'est de permettre à l'État souverain de se préparer économiquement, militairement et financièrement pour prendre le contrôle de son territoire national. Et nous sommes aujourd'hui heureux de comprendre que nous sommes à la croisée de ce chemin parce que les rapports de force entre l'État du Mali et leurs groupes armés terroristes ont changé aujourd'hui. Parce que nous avons une armée qui monte en puissance, nous avons une armée qu'il faut saluer aujourd'hui, qui a les capacités opératoires, opérationnelles, pour remplir vaillamment ses missions régaliennes de sécurisation du territoire national. Maintenant, quand on a signé l'accord, qu'est-ce que l'accord avait dit? Premièrement, il fallait procéder à un cantonnement des groupes armés. Et deuxièmement, il fallait procéder au désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants. Ce que l'État du Mali a fait. Malheureusement, les groupes armés n'ont jamais accepté le cantonnement. Les groupes armés n'ont jamais accepté le désarmement. Bien au contraire, l'État du Mali n'a jamais violé l'accord de paix parce que nous sommes un pays respectueux des conventions et accords internationaux. Mais au contraire, c'est les groupes armés qui ont toujours violé, qui ont toujours trahi l'accord pour la paix et pour la réconciliation nationale. Récemment, avec la rétrocession des emprises de la MINUSMA, ce sont les groupes armés terroristes qui ont attaqué les positions de l'armée régalienne. L'armée n'a pas attaqué en premier. C'est ce qu'il faudrait comprendre. C'est les groupes armés qui nous ont attaqués. Maintenant, quand vous prenez l'accord dans sa forme et dans les fonds, quand vous analysez, comme le dit le grand frère Cheikh Mar, il y a des dispositions qui violaient même la constitution du Mali, qui violaient le caractère unitaire, le caractère laïque de la République du Mali, et qui aussi, il y a d'autres dispositions qui en mettaient en réalité les conditions de régionalisation du Mali pour mettre un État régional en donnant l'autonomie à certaines régions au détriment de certaines régions et qui créait aussi les conditions d'instabilité chronique et les conditions de participation de l'État. C'est pourquoi je dis l'accord, dans certaines dispositions, violait le caractère unitaire de la République du Mali. Donc, c'est que cette décision des autorités de la transition, il faut la saluer aujourd'hui et elle est bien accueillie au sein de l'opinion publique nationale parce que la plupart des Maliens étaient favorables, n'est-ce pas, à la fin de cet accord qui crée les conditions de partition de notre pays et les conditions d'instabilité de notre pays. On ne peut pas avoir des citoyens réglés par des lois sur un même territoire. Et regardez, pendant de 2013 à aujourd'hui, pour qu'une autorité nationale puisse mettre pied à Kidal, il fallait demander l'autorisation des groupes armés. Ça, c'est inacceptable et inadmissible dans une république.
Quand vous dites que le gouvernement avait signé cet accord en position de faiblesse, aujourd'hui que le Mali a une position de force, est-ce à dire qu'il pourrait mettre à tout moment fin à cet accord quand il veut, puisque maintenant il est en position de force?
Si vous comprenez un peu mes propos introductifs, je dis que l'accord a des objectifs. Obtenir le cessez-le-feu. Procéder au cantonnement, au désarmement, à la réinsertion. Mais l'autre option qu'on donne à l'État souverain, c'est de mieux se préparer militairement pour prendre le contrôle de son territoire national dans le cadre des fonctions régaliennes de l'armée, de protection, de sécurisation, des institutions de la République, des responsables de la République, des personnes et de leurs biens dans un espace. Et il faut saluer aujourd'hui, sans être prétentieux, que nous sommes en capacité opératoire et opérationnelle pour remplir aujourd'hui ces missions de sécurisation de notre territoire. D'accord. Donc les rapports de force ont changé. Et aujourd'hui, la paire a changé de camp. Et quand vous voyez les déclarations, quand vous faites le recoupement et vous analysez les déclarations faites par-ci, par-là, par les groupes armés terroristes, ça veut dire qu'ils ont perdu aujourd'hui la guerre et ils sont dans une guerre médiatique. Mais il faudrait que le gouvernement soit mieux préparé. Il faut le dire.
D'accord.
Vous savez, la guerre ne se gagne pas. Une telle guerre ne se gagne pas militairement seulement. Il y a la guerre médiatique. Il faut que nous soyons en alerte maximale par rapport à cette campagne médiatique. Il faut que nous soyons présents sur les médias internationaux pour défendre notre position.
D'accord.
Et ne pas laisser les groupes armés terroristes prendre le terrain médiatique, au détriment de la République du Mali.
Jean-François Marie Camara, enseignant-chercheur à l'Université de sciences politiques et juridiques de Bamako, le gouvernement a décidé de mettre fin à cet accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de positif de cet accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger?
Bonsoir. D'abord, je salue tout le monde, surtout mes co-débatteurs et mon cher ami, mon aîné, docteur Clément Koné. Voilà, avant de me prononcer sur la question, je souhaiterais d'abord vous présenter toutes mes excuses parce que je n'ai pas pu faire le déplacement. Voilà, donc appel téléphonique, ce n'est pas comme si j'étais sur le plateau. Mais on va en faire avec. Maintenant, par rapport à votre question, je pense bien que quand on parle de la résolution d'un conflit comme le sien, le conflit du Mali depuis les premières années des indépendances, à partir de 1963, les premières révoltes jusqu'à aux années, dans les années 80-90, jusqu'à arriver vers les années 2012, vous allez voir que la médiation algérienne a atteint ses limites. Parce que quand on parle de médiation, le médiateur dans un conflit n'a qu'un grand rôle. Un seul rôle à jouer, c'est de réconcilier les parties en conflit. Mais quand le médiateur dans un conflit tente, dans la résolution de ce conflit, tente toujours à défendre ses intérêts au détriment des intérêts des parties, ça pose problème. Je pense que l'Algérie est dans cette posture. Donc, le positionnement des nouvelles autorités du Mali par rapport à cette question-là, je pense que ce positionnement-là est salutaire parce que quand vous regardez aujourd'hui, quand les autorités du Mali ont décidé de mettre fin à cet accord-là, cela s'inscrit dans la volonté générale des populations maliennes. Quand vous faites un sondage dans les rues de Bamako ou dans toutes les grandes villes du Mali, vous allez voir que c'est sur les lèvres des uns et des autres que le Mali doit sortir de cet accord-là, parce que cet accord n'est pas vraiment conforme à nos réalités sociétales. Cet accord-là ne peut que diviser le peuple malien davantage. Et c'est vraiment, Dr Koné a dit à juste titre que cet accord violait la loi fondamentale du Mali qui est la Constitution. Donc je pense que ce qui mange se déplore surtout, que les autorités de la transition ne traitent pas tous les groupes armés, tous les groupes radicaux comme des groupes terroristes parmi eux. Je pense qu'il y a certains qui ne sont pas des terroristes, vraiment qui ont décidé de respecter.
Nous allons parler du rôle des uns et des autres plus tard, mais déjà, j'ai posé la question à savoir que peut-on retenir de positif de cet accord de paix, de paix signé en 2015 entre le gouvernement et les groupes armés?
Dans cet accord-là, il n'y a pas que de négatif. Hein. Par exemple, quand vous regardez la réorganisation territoriale du Mali, ça se trouve dans cet accord. Cette réorganisation territoriale du Mali a été d'ailleurs engagée sur cette transition. Nous avons bousculé, on était à combien de régions? Aujourd'hui, nous sommes à 19 régions. Et le découpage territorial, toutes ces questions ont été revendiquées dans l'accord de paix. Et la réorganisation territoriale et la redistribution des ressources dans les différentes régions de façon égalitaire, les ressources humaines et les ressources financières, c'était encore mentionné dans cet accord. Donc, dans cet accord, tout n'est pas mauvais, mais en grande partie, les grandes dispositions qui se trouvent dans cet accord-là vraiment violent nos réalités sociétales, les valeurs de notre République. Donc, je pense que sur ce plan-là, nous pouvons dire que les autorités maliennes, les autorités actuelles maliennes ont bien fait de dénoncer cet accord et bien fait de mettre fin à cet accord, même si ça peut être considéré comme c'était une violation, ça peut être considéré comme une posture unilatérale de la part des autorités de la transition. Mais je pense qu'on ne peut pas jeter la pierre sur tout le contenu de cet accord-là. Il y a certaines dispositions vraiment qui peuvent être considérées comme des dispositions vraiment qui peuvent renforcer notre système démocratique, notamment des questions relatives à la réorganisation territoriale, des questions relatives au développement des régions, des questions relatives à la lutte contre la corruption. Voilà, je pense qu'il y a certaines dispositions qui répondent qui sont en conformité avec notre République.
D'accord, vous parlez de quelques acquis de cet accord. Qu'adviendront alors les acquis de cet accord pour la paix et la réconciliation après avoir annoncé la fin de cet accord?
Les acquis, par exemple, quand vous regardez cet accord, comme a été dit par le privataire Dr. Brevankone, il y avait certaines dispositions qui ont été violées d'abord par les groupes radicaux, parce que quand on parlait de désarmement, on parlait de cantonnement des groupes armés dans les camps, c'était le contraire, c'était l'armée malienne qui était cantonnée. Mais les acquis, c'est surtout, cet accord avait permis vraiment de calmer les ardeurs, avait permis vraiment de mettre fin aux hostilités, c'est-à-dire les affrontements directs entre les deux parties, notamment dans la ville de Kidal. Donc je pense que cela peut être considéré comme un acquis. Mais d'autres choses, notamment des questions relatives au retour des réfugiés dans certaines localités du Nord, ça aussi, ça peut être considéré comme un acquis. Voilà, il y a beaucoup de choses que nous pouvons citer, même si le temps nous permet, je pense qu'on va en parler davantage sur d'autres questions.
D'accord. Omar M.C. Kone, vous avez toujours lutté pour l'abandon de cet accord pour la paix et la réconciliation. Est-ce que vous avez retenu au moins quelque chose de positif dans cet accord pour la paix et la réconciliation qui vient de mettre fin?
Bon, ce que je voulais intervenir sur vos questionnements à mes co-débatteurs tout à l'heure. Bon, ce qu'il faut retenir, cet accord, il est fini. Hein? C'est la fin de l'accord. Il n'y a plus d'accord. Il y a un nouveau dispositif qui est mis en place maintenant par le président de la transition qui s'appelle le dialogue inter.
Nous allons parler du dialogue inter.
Laissez-moi développer mon argument. Mm-hmm. Sinon, on ne va pas se comprendre. Mm-hmm. Alors, vous savez, dans cet accord d'Alger, il y a eu plus de mots que de biens.
C'est-à-dire,
quand vous parcourez les 68 articles et quand vous voyez la traçabilité de l'application soi-disant de cet accord sur 9 ans, vous verrez que le Mali profond a profondément souffert à cause de cet accord. C'est cet accord qui nous a amené une vague de terrorisme que le Mali n'a jamais connue. C'est cet accord qui a amené des blocages de nos institutions. C'est cet accord qui a amené la division entre Maliens. C'est cet accord, enfin, qui a parasité, qui a pourri la vie des Maliens pendant 9 ans. Donc, quand vous me demandez l'acquis, pour moi, il n'y a presque pas d'acquis. Alors, cela dit, je suis d'accord avec l'intervenant qui vient de dire.
Il a parlé de la réorganisation qui est un acquis.
J'ai quelque chose justement à dire par rapport à la réorganisation. Il y a la lutte contre la corruption. Actuellement, le gouvernement malien a mis en place une stratégie nationale de lutte contre la corruption. N'est-ce pas? Il y a eu la réorganisation territoriale. Mais ce qui était dans l'accord, c'était une réorganisation territoriale avec des régions élues au suffrage universel direct. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il y avait des préceptes, comme je disais, beaucoup de préceptes dans cet accord qui amenaient beaucoup de divisions que de bien. Alors, il en a parlé, mon frère Koné. L'accord a richement violé l'ancienne constitution. Et ça ne pouvait pas être appliqué. L'accord violait même le principe d'une armée régalienne. Parce qu'on parlait d'armée reconstituée, on parlait de police militarisée, etc.
D'accord. Le gouvernement a parlé de l'inapplicabilité de cet accord. Et ça veut dire que le gouvernement même qui avait signé cet accord savait au préalable que cet accord est inapplicable.
À mon avis, le gouvernement qui l'a signé, nous, on l'a su. Comment le gouvernement qui l'a signé ne pouvait pas savoir que c'était inapplicable? Moi, je me pose toujours cette question. Si, mais on a mis le gouvernement dos au mur, signé. Sinon, je vous coupe la tête. C'est ça, le problème. C'est-à-dire, en autre mot, ce n'est pas un accord des Maliens, l'accord d'Alger. C'est un accord des étrangers. J'ai toujours développé, point par point, même la formation les premières écritures de l'accord, ça ne s'est jamais fait au Mali. Quand le Mali a amené 13 observations qui ont été faites par un général dont je vais taire le nom, ces 13 observations ont été amenées par notre diplomate, mais ils l'ont mis à la poubelle. L'accord, je vous ai dit, l'accord, c'est des préceptes d'autonomie, de fédéralisme et d'indépendance des irrédentistes. Vous n'allez pas, je vous mets au défi, j'ai l'accord ici, je vous mets au défi de relire cet accord, vous n'allez pas trouver ces trois mots. Et pourtant, si vous comprenez le sens des phrases, c'est ces préceptes qu'on veut appliquer. D'accord. Donc, voilà, moi je suis un peu gêné de parler d'acquis, mais je sais que mon pays a beaucoup souffert pendant presque dix ans, chaque jour, c'était des catastrophes, des femmes assassinées, violées, des villages entiers brûlés. Et jusqu'à présent, je vous dis, il y a toujours des réfugiés quelque part maliens, des déplacés maliens quelque part. Donc il était grand temps que les autres autorités prennent ça en charge. Comme je vous ai dit, c'est l'intervention, la dernière intervention de l'Algérie qui a fait déborder le vase, pour dire stop à cela et maintenant recentrons-nous sur nous-mêmes, trouvons-nous des solutions adéquates. D'accord. Mais
malgré la fin de cet accord pour la paix et la réconciliation, la communauté internationale et l'Algérie, chef de file de la médiation, continue de demander aux autorités de la transition de privilégier la voie du dialogue et maintenir la dynamique du processus de paix d'Alger. Cet appel pourrait-il être entendu par les autorités maliennes?
Non, cet appel ne serait pas entendu car cet appel n'est pas adressé aux autorités du Mali. Ils ont adressé leur communiqué aux Maliens. Mais de quel droit ils peuvent s'adresser directement aux Maliens et en méprisant nos autorités? De quel droit? Est-ce que nous, Maliens, nous allons nous adresser au peuple algérien pour dire, par exemple, voilà, peuple Algérie, surtout de la Kabylie, regroupez-vous, cherchez-vous aussi à prendre votre indépendance. Est-ce qu'on le fait, nous, Maliens? Non. Donc, ils ne doivent pas s'adresser directement au peuple malien. Ils doivent s'adresser aux représentants du peuple malien. Donc, leur appel ne serait pas entendu. Ça, c'est clair et net.
D'accord. Docteur Kony, l'Union européenne qui a regretté la décision des autorités maliennes affirme que les populations du nord, les populations civiles surtout du nord du pays, seront les premières à subir les conséquences de cette décision qu'elle qualifie d'unilatérale. Quelles pourraient être les conséquences, selon vous, de cette décision?
Merci beaucoup, M. Maïga. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais apporter une certaine précision. Et parlant de l'accord, il faut reconnaître que l'accord a eu le mérite à un moment donné, avec le cessez de faire taire les armes, de faire taire les hostilités, à un certain moment donné. Mais depuis l'installation des autorités de la transition, les groupes armés se sont mis dans un combat, dans un conflit contre les autorités de la transition, en multipliant les débats sur les scènes internationales. On parle de réorganisation territoriale qui était dans l'accord de paix. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à cette réorganisation territoriale, moi je suis très prudent sur le mot, mais en tant que chercheur universitaire, je ne suis pas un homme politique, il faut comprendre que quand on veut créer des régions, de nouvelles régions administratives, il faut tenir compte de la viabilité économique et sociale des structures. Il faut tenir compte de la viabilité économique et sociale des structures. Est-ce qu'aujourd'hui, économiquement, le Mali est viable pour faire fonctionner les différentes régions qui ont été créées? Et je vais vous dire qu'il y a un pays européen dont je ne vais pas citer le nom, je ne sais pas si la SCA à la porte, qui était à 24 régions, mais pour des questions de ressources financières, elle leur revenait à 18 régions. Et nous, nous sommes en train d'en créer. Maintenant, pour revenir à la question de fond, et vous savez, la démarche entreprise par les autorités de la transition par rapport à la sécurisation du territoire national, elle est sécuritaire. Quand il y a eu la prise de Kidal, quand il y a eu la récupération de Kidal, je ne dirais pas que la Kidal est revenue dans le giron de l'État malien. Pour moi, c'est un terme anachronique parce que Kidal était malien. Les autorités de la transition, dans leurs différents communiqués et communications, ont toujours dit que nous tenons à la protection des personnes et de leurs biens. Et comme l'a dit le grand frère a dit quelque chose qui est extrêmement important, l'initiation aujourd'hui d'un dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, c'est ce qui va être le vrai accord de paix qui va être signé entre Maliens. Les Maliens vont discuter ensemble. Il y a des concertations qui seront initiées. On va discuter ensemble sans discrimination et pour pouvoir signer un accord intermalien. C'est cet accord intermalien qui va sauver le Mali. D'accord. Et ce qu'il faut comprendre, la dynamique impulsée
de ce dialogue intermalien peu de temps.
Je voudrais terminer pour qu'on puisse comprendre. Parce que quand vous commencez une idée, il faut laisser achever. La dynamique entreprise aujourd'hui par les autorités de la transition, au contraire, c'est les communautés du Nord qui vont bénéficier, qui étaient sous les joues de la domination des groupes armés terroristes, qui ne pouvaient pas vaquer à leurs occupations, mais qui aujourd'hui vaquent librement à leurs occupations et qui vont entreprendre des activités génératrices de revenus qui vont permettre aux familles d'aller vers une autonomisation financière pour sortir de la pauvreté endémique.
Donc c'est plutôt un bénéfice pour les populations qui en bénéficient du Nord que des conséquences.
Que des conséquences. Pour moi, ce sont des bénéfices pour les populations du Nord. Parce qu'aujourd'hui, toutes les zones contrôlées par l'armée régalienne, les populations vaquent à leurs occupations sans crainte, sans peur. Ce n'était pas possible avant. On raquettait les populations. Quand les groupes armés terroristes occupaient, contrôlaient certains territoires, ils raquettaient les populations. Les populations étaient sous le joug de leur domination. On les violentait, on violait des femmes, on agressait même des enfants, on tuait des femmes, des enfants, et les gens ne pouvaient pas aller dans les champs, les gens ne pouvaient pas aller. Il n'y avait pas une libre circulation des personnes et de leurs biens. Aujourd'hui, il y a une libre circulation des personnes et de leurs biens. C'est ce qui permet aujourd'hui de créer de la richesse.
D'accord.
Et la sécurisation permet une meilleure redistribution de cette richesse qui va être créée au niveau de ces zones qui étaient sous domination des groupes armés terroristes aujourd'hui et qui se retrouvent aujourd'hui à l'aise pour entreprendre des activités génératrices de revenus. Donc, c'est les populations du Nord qui en bénéficient aujourd'hui.
Depuis sa prise de fonction comme Premier ministre en 2021, le Premier ministre Jean-Guelko Kala Maïga a affirmé qu'ils vont appliquer l'accord avec l'application. Il a parlé de l'application intelligente de cet accord, que beaucoup se posaient la question, c'est quoi l'application intelligente de l'accord. Est-ce qu'ils savaient au préalable qu'aujourd'hui, le Mali va être en cette position de force pour dire stop à cet accord?
Mais ce que Chogel avait dit, moi personnellement j'avais compris le discours. Et c'est, on est aujourd'hui à l'application intelligente de l'accord. Oui, c'est la fin de l'accord, c'est une application intelligente.
Si c'est la fin, est-ce qu'on peut parler encore de l'application?
Ce que le Premier ministre Chogel-Ko Kala Maïga avait dit, l'application intelligente de l'accord, c'était nous donner le temps de mieux nous préparer militairement pour pouvoir prendre notre destin en main, pour pouvoir prendre le contrôle de l'ensemble des zones qui étaient sous contrôle des groupes armés terroristes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc on peut parler d'application intelligente. Maintenant, quand on prend le fond même de l'accord, il faut reconnaître qu'il y a des dispositions qui ont été appliquées, sincèrement, parce qu'il y a le processus de déterre mis en place par l'État du Mali avec l'appui technique des partenaires internationaux, c'est déjà un acquis. Il y a eu une application de certaines dispositions. Mais il y a des dispositions qui violaient même la Constitution. Ce qu'il faut comprendre, que les gens comprennent, c'est que quand vous prenez l'ordonnancement juridique du Mali, les accords et les conventions ne font pas partie. Et il est clair que dans un pays, les accords et conventions internationaux priment sur les lois nationales. Mais dans notre ordonnancement juridique, un accord ne fait pas partie. Donc nous avons procédé aujourd'hui à une application intelligente parce que nous nous sommes donné le temps de mieux nous préparer militairement pour libérer les populations du Nord qui étaient sous des groupes armées terroristes.
Jean-François, vous avez parlé tout à l'heure du rôle des uns et des autres. Le gouvernement juge l'incapacité de la médiation internationale à assurer le respect des obligations incombant aux groupes armés signataires. Cette médiation a-t-elle joué sa part de responsabilité selon vous? Vous êtes là? il n'est pas là. Je vous repose la même question. Est-ce que la médiation a joué réellement sa part de responsabilité dans cet accord de paix?
Ben non, mais jugez-en par le communiqué numéro 64 et 65 du gouvernement. La médiation devrait se mettre à distance des deux parties. N'est-ce pas? Et de toujours chercher la solution à les rapprocher, à rapprocher les points de vue. Mais qu'est-ce que nous avons constaté avec l'Algérie? L'Algérie déroulait le tapis rouge aux groupes armés qui sont carrément transformés en groupes terroristes. N'est-ce pas? Qui leur donne le logis, qui leur donne la nourriture, hein, qui leur donne tout en Algérie. Hein, aux frais de la République algérienne. L'Algérie reçoit des gens qui sont poursuivis avec un mandat d'arrêt international sur son sol. L'Algérie va même plus loin dans cette turpitude pour mettre dans un communiqué final des pays des non-alignés un dispositif de l'accord d'Alger dans ce document. Alors quand notre diplomatie a demandé de faire des amendements, cette même Algérie qui a dit non, pas question. Quand le Mali a demandé mais qui a été porteur de ces dispositifs, la responsabilité sur le champ, personne ne s'est mise en évidence.
D'accord, comme vous l'avez dit, le gouvernement dénonce une main cachée des autorités algériennes dans une manœuvre consistant à imposer un chapitre sur le Mali dans le document final du sommet du mouvement des non-alignés à Kampala, en Ouganda, sans le consentement des autorités maliennes. Pour quel intérêt?
Mais je vous ai dit, cet accord, le fond de cet accord, c'est de mettre mes bases sur les ressources naturelles du Mali. Voici, c'est le fond. Et ce n'est pas que l'Algérie qui pilote. Je vous ai cité certains nombres de pays, notamment la France, qui cherchent à maîtriser gratuitement, à avoir gratuitement nos ressources naturelles. C'est ça le fond. En d'autres termes, c'est une révisite de l'OCRS, l'Organisation des États riverains du Sahara, créée le 10 janvier 1957 par la France coloniale. Donc ils ont remis ça au goût du jour. Et qu'est-ce qui a amené ça? C'est la destruction de la Libye. Je ne vous fais pas l'historique de tout ça. Quel pays a été traversé pour venir au Mali? C'est l'Algérie, n'est-ce pas? Bon, et comment voulez-vous...
Donc pour vous, l'Algérie considère le Mali comme son arrière-cour?
Absolument, non seulement comme son arrière-cour, mais l'Algérie a des visées géostratégiques aussi sur le Mali. Il ne faut pas l'oublier. Comme les Européens, les Occidentaux ont des visées géostratégiques sur le Mali, notamment sur le pétrole malien. L'Algérie, on va le savoir dans les jours à venir, l'Algérie, il paraîtrait, l'Algérie a commencé à se servir sur les produits naturels du Mali depuis des décennies et des décennies. Donc tout ça, ça va être mis à jour. Mais sinon, comment vous pouvez comprendre qu'un État souverain vous demande que vous avez mis quelque chose le concernant dans un dispositif international et qu'il veut amender et vous, vous mettez votre droit de veto, vous dites niette. Mais cela dit, dans le froid, moi j'avais fait cette analyse dès le départ, que l'Algérie, c'est le problème du Mali. Pourquoi? En 1991, quand le FIS, le Front islamique du salut, a gagné les élections en Algérie, ils les ont baïonnés, ils les ont assassinés. Ils ont foutu tous leurs opposants au sud de l'Algérie, donc au nord du Mali. Pour faire quoi? Pour faire du terrorisme et du trafic de cigarettes, de trafic organisé en tout genre. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont refoulé les membres du GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Ils ont refoulé les gens du GIA, tout ça c'est algérien, hein, au nord du Mali. Donc ils ont déporté leurs problèmes vers le Mali. Mais ce que les gens ne savent pas, les Kabyles, qui sont comme des Touaregs, constituent 60% de la population algérienne. Ils demandent leur indépendance. Pourquoi ils ne s'occupent pas de ça? Ils viennent s'occuper des Touaregs qui ne valent même pas 3%. Et je profite de cet instant pour corriger quelque chose. Ce n'est pas la majorité des Touaregs qui est contre la République du Mali. La majorité aime le Mali.
D'accord.
Hein? Voilà. Donc, pour vous dire que le rôle de le président, son excellence, le colonel Assimi Goïta, il a très bien fait de sortir de cette impasse, d'annuler cet accord. Et d'appeler à un dialogue entre les Maliens. Dont nous avons déjà l'habitude.
Docteur Koné, pour quelles raisons l'Algérie s'opposerait à une levée des sanctions contre le Mali?
Vous savez que le Mali est une terre de convoitise. Tous ces micmacs, ces jeux au niveau international ou au niveau régional, c'est pour des enjeux géoéconomiques. Nous avons le pétrole au nord. Et ça ne suffit pas. Quand vous prenez toutes les études internationales, hydrogéologiques, géologiques, on démontrait que le Mali, le nord du Mali détient les trois réserves d'eau naturelles souterraines mondiales. Deuxièmement, vous avez la zone de Tessalit, qui est une zone stratégique militairement, où il y a le méridien Greenwich. Ça veut dire que le Tessalit est au milieu du globe terrestre. Si vous avez Tessalit militairement, vous pouvez faire des bombardements. Quand vous êtes une puissance militaire, des bombardements partout au monde. Quand vous regardez le départ de ATT, ce n'est pas par rapport à la réadmission des Maliens de France qu'il avait refusé de signer. Il y a des puissances qui voulaient que le Mali retrocède par bail la zone stratégique de Tessalit pour qu'ils en fassent, pour qu'ils soient des puissances militaire international, le président ATT a refusé parce que le président ATT aimait le Mali. Il a refusé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, ce jeu aujourd'hui, nous avons même des ressources naturelles aujourd'hui qui ne sont pas découvertes par l'État, par la recherche nationale. Mais quand vous prenez la colonisation, ils avaient découvert tous les gisements pétroliers, d'uranium, d'or. Ils ont une cartographie de toutes les ressources naturelles que le nord du Mali regorge, en dehors de l'eau et en dehors de la zone stratégique militairement qu'est Tessalit. Comment vous pouvez comprendre l'Algérie qui est la médiation internationale, dont les documents de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, son ministre des Affaires étrangères avait opposé sa signature au nom de la République d'Algérie, que des gens, des groupes armés, des groupes que nous qualifions aujourd'hui de groupes armés terroristes, puissent circuler librement, puissent tenir leur réunion librement sur le territoire algérien. C'est une sorte d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali.
D'accord.
Et en matière de relations internationales, de coopération régionale, le Mali ne peut pas accepter que des gens qu'il qualifie de groupes terroristes, de groupes armés terroristes, puissent circuler librement en Algérie, être protégés et tenir leur erreur librement. Et mieux au contraire, le procureur général, près la cour d'appel de Bamako, a émis des mandats internationaux contre certains leaders de ces groupes armés terroristes. Si l'Algérie était dans des relations de bon voisinage avec le Mali, l'Algérie aurait pu procéder à l'arrestation de ces responsables de groupes armés qui sont sous mandat international et les extrader vers la République du Mali.
D'accord.
Mieux encore, en matière de coopération militaire, s'il y avait des relations de bon voisinage, ces gens ne pouvaient pas aller sur le territoire algérien. Ça veut dire qu'il y a une certaine ingérence, il y a une certaine complicité, une certaine accointance entre les groupes armés terroristes et l'État de l'Algérie. Sinon, comment ils traversent le territoire?
Vous gardez toujours la parole, le temps juste, parce qu'il nous reste à peu près 8 minutes à partager ensemble. Nous allons consacrer ce temps au comité de pilotage de dialogue intermalien mis en place par le président de la transition. Quel rôle cet organe peut-il jouer dans le retour de la paix et la cohésion sociale au Mali?
Non, le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, comme je le disais tantôt, est une très bonne initiative des autorités de la transition qu'il faut accompagner. Maintenant, la réussite et l'échec va dépendre du mécanisme de mise en œuvre. Il faudra que au sein de ce comité, il faut que ce comité soit représentatif. Il faut que l'ensemble des couches sociales du Mali, il faut que l'ensemble des forces vives du Mali soient représentées au sein de ce dialogue intermalien. Mais ce qui est important, il ne faudrait pas que les gens soient choisis uniquement pour les perdièmes. Moi, je serais conseiller du président de la République, je dis qu'il n'y a pas de perdièmes. Donc tous ceux qui vont accepter de venir au sein de ce dialogue intermalien, ça veut dire qu'ils viennent pour apporter des contributions. Le mode de désignation des acteurs qui vont animer cet espace citoyen de dialogue intermalien est extrêmement important. Il faut définir, premièrement, il faut définir un TDR pour le dialogue intermalien. Il faut définir les conditions de participation pour le dialogue intermalien. Il faut définir le mode de désignation des personnes ou des acteurs qui vont animer ce dialogue. Parce que vous savez, au Mali, on a toujours dialogué. Mais le problème, c'est la question des perdièmes. Les gens viennent souvent dans des espaces comme ça pour les perdièmes. Quand ils viennent, ils vous disent, perdièmes, c'est combien? Je vais parler en Bambara. Il faut sortir dans ça. C'est une question de souveraineté nationale. C'est une question de patriotisme. Il faut que les gens mettent de côté l'argent. Il est clair qu'on peut donner des frais de carburant, mais il faut qu'on ait des acteurs en réalité qui ont la capacité de comprendre les implications de ce dialogue, qui ont la capacité de comprendre les enjeux nationaux et qui puissent apporter, n'est-ce pas, des solutions à ce dialogue. C'est sur la base de ce dialogue qu'on pourrait signer un accord intermalien qui va faire taire les armes à jamais. Mais il faut que nous soyons toujours sur l'alerte par rapport à la lutte contre les groupes armés terroristes qui opèrent sur le territoire malien.
D'accord. Il disait de faire très attention avec le choix des acteurs. Comment, selon vous, rassembler les vrais acteurs autour de cette table de négociation entre Maliens?
Bon, pour moi, je pense que nous avons un bel exemple qui est les assises nationales de la refondation de l'État. Ça a été exécuté de façon participative et inclusive. Les gens ont été pour parler du Mali. Donc, cette commission, ou ce comité de pilotage qui va organiser le dialogue direct intermalien, doit s'en inspirer pour qu'il y ait une grande participation, une inclusivité nationale, donc sur tout l'ensemble du territoire national. Que les Maliens exposent leurs problématiques pour la paix, parce que l'objectif recherché, c'est quoi? C'est la paix. S'il y a des processus de développement qui concourent à cette consolidation de paix, qu'ils en fassent part, mais que s'ils ont des réalités de leur localité à ressortir, à mettre en place et qui peuvent favoriser la paix, ils doivent faire état de tout ça. Et s'ils ont même des valeurs socio-culturelles à mettre en place pour conforter la paix et la cohésion, tout ça, ils doivent le mettre. Moi, j'ai une grande confiance.
Mais est-ce que les groupes armés du cadre stratégique pourraient être impliqués dans ce processus intermalien?
Alors, vous avez dit du cadre stratégique. Quel cadre stratégique?
Le cadre stratégique, les groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation, ceux de la CMA et certains de la plateforme qui se retrouvent dans cette plateforme.
Alors, les groupes armés qui ont signé l'accord, s'ils ont abandonné les armes, s'ils n'ont aucune velléité de terrorisme, s'ils ne sont pas poursuivis par la justice, ce sont des Maliens. Puisqu'ils ne sont pas poursuivis, ils ont tous les droits comme les autres. Donc, ils doivent participer à cet accord. Mais précisément, les gens de Gatchia, qui étaient la plateforme loyaliste au gouvernement, qui n'a jamais combattu l'armée malienne, qui n'a jamais fait des exactions contre le Mali, ce groupe armé doit participer. Je vous dis, maintenant, l'accord il est caduque. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir? Vous êtes malien, vous avez le droit de participer au dialogue intermalien, à condition que vous ne soyez pas sous mandat d'arrêt, à condition que vous n'ayez pas, quelque part, fait des exactions, quelque part, parce que quand vous serez sur ce lieu, celui à qui vous avez blessé la famille va vous interpeller. Et la justice fera son boulot.
D'accord. Donc, alors, quel avantage peut-on tirer de ce dialogue intermalien qu'on n'a pas pu trouver dans le processus de paix d'Alger?
Mais c'est-à-dire, c'est les Maliens qui doivent trouver leur propre solution. Oui. On ne peut pas avoir la solution miraculeuse des autres pays qui viendront nous imposer leur point de vue sans connaître nos cultures, sans connaître nos contrées, sans connaître notre histoire. Ça ne peut pas marcher. Mais c'est le peuple malien lui-même, les Maliens entre eux, qui pourront. Mais les gens qui ont fait Kourougan-Fouga, Hein. Il ne peut pas, vous croyez qu'il ne peut pas s'asseoir pour faire un autre dialogue, se mettre d'accord sur certains points précis et pour aller vers la paix.
On a toujours pas Jean-François Marie Camara au téléphone. En 30 secondes, dites-nous quel avantage peut-on tirer de ce dialogue intermalien qu'on n'a pas pu avoir avec l'accord de paix d'Alger?
Non, il faut que ce dialogue soit franc. Je dis, il faut laisser les gens s'exprimer, il faut laisser les gens verser leur colère. Mais il faut faire des propositions concrètes de sortie de crise. C'est pourquoi je dis, il faut vraiment des TDR bien élaborés pour ce dialogue intermalien. Il faut définir les conditions de participation et aussi définir les modalités de désignation des personnes qui vont participer. Il ne faudrait pas que on choisit les gens par-ci par-là. Il faut que ce soit des gens qui puissent participer au dialogue, mais qui puissent faire des propositions de sortie de crise pour qu'on puisse trouver vraiment les solutions alternatives ou les solutions durables à la crise du Mali. Entre Maliens, on va signer cet accord.
Merci, docteur Brahima Mamadou. Connaissez sur vos mots que prend fin à ce grand dialogue qui réfléchissait sur la fin de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Nous étions avec Oumar M.C. Kone, membre du Front du refus de l'accord d'Alger, Dr Brahima Mamadou Kone, politologue, et Jean-François Marie Camara, enseignant-chercheur à l'Université de sciences politiques et juridiques de Bamako, qui nous a quittés. À la présentation, c'était Imirana Kilo Meiga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.